BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours, à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi et puis à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier. On va parler de la baisse du nombre de biens à louer à l'approche des Jeux Olympiques. L'équipe Beanstock vient avec des chiffres tout frais que nous allons analyser avec Marie Cœur de Roy et Alexandre Fitoussi, son fondateur. Notre question réponse du jour sera sur la gestion passive versus la gestion active. Nous allons parler des États-Unis où cette gestion passive, elle s'appelle Lazy Investing. Quels sont les principes de cette méthode d'investissement en bourse appliquée au contexte français? Vous le savez, avec le succès des ETF de chez nous, c'est un sujet qui vous concerne. Christian Fontaine de l'équipe du Revenu répondra à toutes vos questions d'ici 25 minutes. Et puis aujourd'hui, on investira différemment dans le design. Comment on débute une collection de design? Qu'est-ce que ça veut dire design? Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'évolution du marché et quelles sont les tendances à surveiller pour les mois et les années à venir? L'équipe de Christie's Europe sera avec nous. Avec nous, il y a vous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes nombreux à nous écouter en direct, bien sûr, mais aussi de manière délinéarisée, comme on dit aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir à l'émission, à nous souffler peut-être des idées de sujets qui vous concernent, notamment dans cette période de déclaration fiscale, si vous avez des cas particuliers ou des questions. N'hésitez pas, notre équipe est mobilisée pour vous accompagner dans cette période. Et puis pour tous les autres sujets, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Mais aussi sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire en message privé, je vous dis, je suis connectée. C'est le moment de faire le point sur la séance en cours côté CAC 40 avec Antoine que nous rejoignons tout de suite. Cher Antoine, on est toujours dans le vert, on peut dire que le CAC est toujours bien orienté là à 11h06.
Oui, même si le rebond manque de consistance, hein, mais un petit peu comme hier, vous parliez du jour de la marmotte, bah, il est un peu en train de nous refaire la même séance qu'hier, hein, plus 0,35% là en ce moment pour le CAC 40. On est à 8068 points, donc tout va bien, mais c'est vrai qu'on y va à petits pas. À noter une bien meilleure performance du compartiment technologique avec un Euronext Tech Leaders qui est toujours en belle avance, hein, plus 1,29% dans le siège direct du Nasdaq qui s'est bien redressé hier. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions autour des perspectives de la tech. Hein, on en reparlera dans quelques secondes. Plus 1,11% en clôture hier pour le Nasdaq. Du côté des autres places européennes, on a du plus 0,57% pour le DAX à Francfort et plus 0,68% pour l'Eurostock 50, un rebond qui manque de consistance. Pourquoi? Parce qu'on a eu les chiffres des PMI ce matin, des indices des directeurs d'achat, qui étaient quand même très attendus. Et ils sont quand même très très bons. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des taux qui se tendent. Et évidemment, ça ralentit un petit peu l'appréciation des actions. À noter que c'est Publicis qui signe maintenant la plus forte hausse du CAC 40. Il y a pas mal de variétés. Ça bouge pas mal, hein. En tête des progressions, plus 2,6% pour Publicis, on est à 104,60€, à noter Accor, plus 1,88 à 40,60€, Eurofin Scientifique, plus 1,69 à 61,30, et puis à noter quelques très belles performances sur le SBF 120, on a Orpea qui signe la plus forte hausse à plus 5,27, 12,98, Interparfum qui est l'objet d'une bonne recommandation de Bernberg qui gagne 3,15% à 50,80€, à noter Legrand aussi sur le CAC 40 qui gagne 1,2% à 96,12€. Là, c'est Goldman Sachs qui a relevé sa recommandation sur le titre à achat. À la baisse, on retrouve pas mal de titres liés aux matières premières industrielles. Il y a eu de fortes baisses de cours sur le marché chinois ce matin. ArcelorMittal perd 1,12% à 23,84€. On a Eramet qui recule d'1,13% à 74,50€. Valourec aussi, moins 1,29 à 16,89€. Et puis le secteur de la chimie, Arkema, moins 1,7% à 96,15€. Et Solvay, moins 3,93€ à 30,33€. Le CAC 40 plus 0,33, 8066 points et l'euro 1,0664.
Nous sommes dans une semaine de publication. Aux États-Unis, on attend une grosse fournée de résultats de grosses entreprises, notamment dans la tech. C'est l'objet de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
On va parler de la tech américaine qui pourrait un petit peu donner le la des performances boursières à venir. Mais avant, je voudrais noter un anniversaire. C'est l'anniversaire de la mise en ligne de la première vidéo de YouTube, vous le savez ? C'est nos confrères de Zone Bourse qui ont relevé cet
incroyable
anniversaire, que je savais.
C'était un truc dans un zoo, c'est ça ?
Oui, devant des éléphants, si je ne dis pas de bêtises. C'est la vidéo d'un des fondateurs devant des éléphants. Exact. Voilà. YouTube a, on a dit quoi, 20 ans ? 19 ans. Bref, 19e anniversaire. Alors, on parle de tech parce que ça va publier côté Alphabet notamment. Racontez-nous un petit peu ce qu'on peut anticiper.
Alors, il ne vous a pas échappé qu'on a quand même une correction majeure sur la tech ces deux dernières semaines du côté des grosses capitalisations américaines. D'ailleurs, si on regarde la scorecard du Nasdaq, sur le mois écoulé, moins 5,7% et d'ailleurs moins 2,7% sur la seule semaine écoulée. Ce qui prouve bien que la machine est un petit peu cassée. Alors, c'est vrai qu'il y a deux sources de tension. Premièrement, l'obligataire. Ça, on l'a vu. On a une Fed qui semble maintenant écarter une éventuelle baisse des taux et ça pourrait être sur l'ensemble de la fin de l'année. Et ça, c'est pas très très bon pour les valeurs de croissance, au contraire. Tout cela est un petit peu ankylosé par aussi la prime de risque géopolitique qui fait que les taux restent élevés. On a vraiment des capacités limitées sur les valeurs techno et quand on a des titres qui ont du mal à progresser comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se poser des questions. Comme dirait le célèbre écrivain, on se demande un petit peu qui sale la mer. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on est peut-être en train de se demander si on n'est pas en train de crever la fameuse bulle intelligence artificielle dont on pressent l'existence sans pouvoir véritablement la quantifier. Alors le meilleur cas d'espèce là-dessus, c'est quand même Nvidia. Nvidia qui a subi un repli particulièrement violent. Ce dernier mois de bourse, ça a quand même été sans gain, moins 14% sur un mois, moins 9% sur la semaine écoulée. Ouais. Et avec là aussi la question, le potentiel d'Nvidia est-il finalement épuisé ou pas? Alors la question, on y répond assez vite. Les résultats d'Nvidia, ils seront publiés à la toute fin du mois et on en attend quand même d'excellentes choses. Maintenant, il y a quelques signes qui montrent que la machine est peut-être un petit peu cassée fondamentalement du côté des grands titres technologiques. Fondamentalement, je dis bien, regardez Tesla par exemple. Tesla qui subit vraiment une déroute boursière, qui est sur un plus bas d'un an et qui vient encore d'annoncer des baisses de prix sur la plupart de ses modèles, un petit peu partout, en Chine, en Allemagne, etc. Regardez Apple qui au premier trimestre subit une baisse de 20% de ses ventes d'iPhone en Chine. Alors, à chaque fois que Apple subit un contre-coup comme ça, on dit mais c'est la Chine, ils vont s'en remettre, mais oui, mais c'est l'iPhone, tout le monde veut des iPhones. Oui, bon, là, ça prouve quand même la progression des titres ces dernières semaines, prouve bien qu'il y a peut-être quelque chose qui, sans être cassé, est un petit peu enrayé. Et au vu des niveaux de valorisation extraordinaires qu'atteignent les titres de la Big Tech et particulièrement les Magnificent Seven, comme on les appelle, il y a des questions à se poser. Alors c'est vrai qu'à court terme, le Nasdaq est au rebond et on sent qu'on aura une belle séance sans doute à Wall Street. Mais voilà, pour les semaines à venir, il va surtout falloir que ces groupes délivrent en matière de résultats et de perspectives. Et évidemment, avec tout ce qu'on attend cette semaine, les Microsoft, les Google, les Amazon, on va avoir du grain à moudre.
Comme on le disait hier avec notre confrère Thomas Veillé d'Investir.ch, manquerait plus que l'IA nous lâche.
C'est ça, un petit peu ça. Manque plus que le moteur se mette à brouter, c'est sûr.
Bon, allez, à suivre ces résultats, évidemment, dans Tout pour Investir et aussi chez Guillaume Sommerer et Julie Cohen, BFM Bourse, tous les jours à 15h30 sur notre antenne. Nous sommes mobilisés pour couvrir cette semaine, cette séquence de publication de résultats. Antoine, à plus tard, c'est l'heure de parler immobilier dans Tout pour Investir. À tout de suite.
Tout pour Investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO, Marie Cœur de Roy est parmi nous. Marie a failli arriver en retard parce qu'elle a du courrier, figurez-vous, du courrier d'auditeur papier. Vous pouvez aussi nous joindre par papier, merci beaucoup.
Et je lirai ce courrier à l'antenne vendredi, c'est une promesse, parce que je trouve que le sujet est particulièrement intéressant sur le logement social et ces classes moyennes qui sont locataires aujourd'hui du parc social et qui sont à peu près menacées d'être expulsées. Donc on lira vendredi à l'antenne.
Le logement social, au programme de notre séquence XXL Immobilier. Vous pouvez donc nous joindre par courrier, vous le savez. Notre adresse, c'est 2 rue Alain,
rue du Général de Boissieu,
à Paris dans le 15e. Et vous pouvez aussi nous joindre de manière digitale. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn, je suis connectée. Vous pouvez m'écrire aussi par ce biais. Nous avons un gros programme et nous avons surtout des chiffres. Nous allons chiffrer et déchiffrer le marché immobilier avec vous, Alexandre Fitussi. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le président de Beanstock. Avec vous, nous zoomons sur un chiffre clé pour démarrer, pour prendre le pouls. Dites-nous un chiffre que vous retenez pour illustrer la tension.
Alors ce chiffre, c'est 1200. 1200, c'est un.
C'est pas 1260. Le prix du mètre carré à Paris.
Non, c'est pas le prix du mètre carré à Paris. Je suis sûr que je peux trouver des villes où c'est le prix du mètre carré. non, 1200.
Saint-Brieuc,
pas Limoges. C'est le nombre de candidatures qu'on a reçues pour un 18 mètres carrés à 500 euros à Lille en deux semaines.
1200 candidatures. En deux semaines.
500 euros, 18 mètres carrés, 1200 candidatures au mois d'avril 2024. Donc c'est un chiffre tout frais que j'ai observé dernièrement. Ça fait suite d'ailleurs à un fameux 11 mètres carrés qu'on a loué à Paris à 610 euros, pour lequel on a reçu 800 candidatures en une semaine. Des chiffres qui donnent le tournis. Et des chiffres qui s'expliquent également, hein, puisqu'il y a des explications. On parle souvent de l'effet JO. Donc il devrait concerner principalement Paris, là c'est Lille.
Bon, après il y a d'autres villes, typiquement Lille accueille des épreuves des Jeux Olympiques hein, quand même.
Tout à fait, c'est tout à fait vrai, mais la tendance s'inscrit dans un phénomène qu'on constate depuis de nombreuses années maintenant, et en particulier depuis deux ans, puisque qu'est-ce qui se passe depuis deux ans ? Les taux ont augmenté, vous l'avez probablement remarqué. Mm-hmm. Des taux qui augmentent, ça veut dire que l'achat du studio pour vos enfants quand ils vont faire leurs études dans une ville, ça devient beaucoup plus compliqué à envisager. Et les prix, malheureusement, n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Les prix n'ont pas baissé, et c'est loin de là. On peut même dire qu'ils ont continué d'augmenter. Il y a des villes comme Lille ou Marseille où les prix d'achat ont continué d'augmenter. Et donc, on se retrouve sous un nombre incalculable de candidatures, une pénurie de biens, je pense qu'on peut le dire, ça y est, on est sur la pénurie, 1200 pour un 18 mètres carrés, c'est une pénurie. Donc, évidemment, ça invite à l'investissement pour l'investisseur quand il entend ça, mais la bonne nouvelle également, c'est que la qualité des candidatures est au beau fixe et que les loyers ont augmenté. Donc, on a, pour un investisseur aujourd'hui, une équation où le prix du mètre carré, il a plutôt tendance à stagner. Les loyers en face augmentent, donc le rendement locatif a augmenté, ce qui vient compenser la hausse des taux. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on trouve son locataire aujourd'hui dans des durées records. Hein. Pour trouver un locataire à Lille, c'est plus du tout ce qu'on imaginait.
C'est combien de temps, tiens, pour trouver un locataire à Lille ?
Pour Lille, donc moi je vais me concentrer sur le studio pour donner cette information. Pour le studio, on est sous moins d'un mois, quoi qu'il arrive, donc 100% des cas, c'est moins d'un mois. On trouve parfois des locataires en une journée, mais on est sur une moyenne qui est entre 15 et 25 jours.
Alexandre, en même temps, 1200 candidatures, il vous faut globalement un mois pour les éplucher.
Et c'est ça le problème. Et d'ailleurs, on commence à avoir des startups qui se développent pour aider à éplucher les dossiers. C'est pas une blague. Hein, et elle marche
bien. Tout problème, une solution. Hein,
exactement.
Les entrepreneurs, ils
sont là pour ça. Mais est-ce que ça va durer dans le temps ? On l'espère pas, très franchement.
Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Là, on voit l'angle d'attaque sous le point de vue de l'investisseur, où effectivement, on se dit un marché tendu, c'est forcément, entre guillemets, aussi des opportunités pour le propriétaire bailleur. Mais la réalité quand même des faits, c'est qu'on a vu là à la rentrée de septembre dernier des agents immobiliers, des agences immobilières avec des devantures avec écrit ne venez pas, il n'y a pas d'appartement à louer, quoi. On n'a aucune offre à la location. Ouais. Donc là, typiquement, là on est en avril 2024, vous êtes en train de nous dire que les choses ne se sont pas détendues depuis la rentrée.
Loin de là, c'est même là on attend une rentrée catastrophique en septembre. Donc là, je me place du point de vue locataire. Je pense qu'il va y avoir un grand nombre d'étudiants qui vont renoncer à leurs études faute de trouver un appartement. Il va y avoir un grand nombre de gens qui vont devoir accepter de payer des loyers qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer.
Et donc, potentiellement ne pas les payer ou pas ? Est-ce que selon vous, ça peut être aussi...
C'est un très bon point. Alors, pour l'instant, on ne voit absolument aucun rebond des impayés sur les loyers. Mais là encore, donc il y a beaucoup de solutions qui existent de nos jours. Aujourd'hui, chez Beanstalk, typiquement, on arrive à mettre en place des garanties de loyers impayés qui sont payées par le locataire lui-même, ce qui est positif pour les deux. Ça permet au locataire de donner de la garantie à son dossier et au propriétaire de ne pas avoir à assumer ce frais en plus. Donc, il y a plein de solutions qui existent là-dessus. On ne voit pour l'instant pas d'inquiétude. On n'a pas d'inquiétude sur le sujet des impayés. Par contre, on a de l'inquiétude sur qu'est-ce qui va se passer en 2025. On le rappelle, on parle des DPEG tout le temps qui vont sortir la location. On n'y est pas encore là. Donc, en janvier prochain, on a des milliers de biens qui vont encore sortir. Heureusement qu'au mois de juillet, un grand nombre de passoires thermiques vont venir, vont voir leur DPE s'améliorer par magie grâce à la réforme.
On en parlera de ça aussi. Je fais une petite aparté pour nos auditeurs et téléspectateurs. La mise à jour grâce aux petites surfaces et aux nouveaux coefficients proposition qui devait permettre, je dis devait, hein, permettre à beaucoup de petites surfaces de franchir peut-être une note, voire deux. Moi, j'ai testé sur plusieurs biens. Il n'y a rien qui change. Donc, on posera la question. On va refaire une émission quand même sur le DPE parce que vous êtes nombreux à m'alerter sur le sujet. Donc, pourquoi ça change beaucoup, pas hein. Ouais, mais pourquoi pour beaucoup. Certains ça change et pour certains ça
change pas. Alors, quand bien même ça changerait pas, je fais juste une toute petite parenthèse. Quand bien même ça changerait pas immédiatement, ça rendrait beaucoup plus simple l'accès à la bonne note. Même si vous ne voyez pas votre note changer tout de suite, le parcours vers la bonne note, il a quand même changé pour tout le monde. Ça,
mais
c'est
bref,
évident.
Pour revenir sur notre idée de tension locative, effectivement, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur une tension extrême, mais elle n'est pas maximale parce qu'elle pourrait être pire à partir du 1er janvier prochain. Là, typiquement... qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'il y a des gens qui, quand ils ont chopé le logement à louer, bah, ils ne bougent plus, ils restent dedans.
Et voilà, ça c'est l'autre chiffre terrible, c'est qu'on voit que les locataires ne changent plus d'appartement. Donc la rotation du parc locatif est au point mort. On a des locataires qui restent beaucoup plus longtemps que par le passé. On voit des villes dans lesquelles on était habitué à ce que le turnover moyen, donc le turnover c'est le rythme auquel les locataires changent d'appartement. On était habitué à des turnovers d'environ 5-6 mois sur des profits très étudiants. Aujourd'hui, il est quasiment impossible qu'un locataire laisse son appartement en dessous d'un an. Donc les appartements ne se libèrent jamais, ne reviennent jamais à location. Plus l'effet JO, plus l'effet taux, on est dans le cocktail parfait pour accueillir notre DPEG en 2025.
Mais je ne comprends pas pourquoi c'est forcément une mauvaise nouvelle de ne pas avoir de turnover dans son locataire. C'est moins contrainte.
Pour le propriétaire, c'est génial. Le problème, c'est que des locataires gardent leur appartement même quand ils n'en ont pas besoin. Donc, l'exemple classique, c'est le locataire qui a autrefois quitté son appartement à la fin de ses études pour laisser passer l'été et en relouer un au mois de septembre. Aujourd'hui, il va garder son appartement. Et donc, ça fait encore des logements qui ne sont pas remis. Il y a des nouveaux arrivants qui ne trouvent pas appartement. Évidemment, en tant que Beanstalk, on se positionne beaucoup du point de vue investisseur, et là, on peut le dire, la tendance, elle est très positive pour eux, mais du côté locataire, il faut reconnaître que c'est devenu la croix et la bannière. On a des gens qui sont prêts à tout. D'ailleurs, on est heureusement... Alors là, encore une fois, on va rentrer dans les logiques un peu politiques, mais on voit... en ce moment même, tous les atouts de certaines contraintes législatives sur les loyers. Typiquement, l'encadrement des loyers, donc pas le plafonnement, l'encadrement, celui qui vous interdit d'augmenter le loyer entre deux locataires, bah là, il joue son rôle, parce que je peux vous assurer qu'un bien qui se loue 500 aujourd'hui, vous le mettez à 800, il se loue immédiatement demain. C'est plutôt bien que ce soit encadré de ce point de vue-là, parce qu'on aurait...
Mais vous voyez, du coup, effectivement, puisqu'on parlait effectivement du point de vue du propriétaire investisseur, du fait que les loyers augmentent, justement, alors il y a cet encadrement à la relocation, il y a aussi l'encadrement des loyers à Paris et dans d'autres villes. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout, ça limite les dégâts, compte tenu de la tension locative, de ce qu'aurait pu être finalement le niveau des loyers, et du coup, du point de vue du propriétaire bailleur, il s'en sort comment dans tout ça?
Est-ce que votre studio à Lille, il serait vraiment loué 500 euros s'il n'y avait pas un peu d'encadrement? Il serait loué 1500 euros, il partirait aussi.
Alors, mais là, pour le coup, c'est le gros reproche qu'on fera au gouvernement, qui a réfléchi à la question du plafonnement des loyers, probablement, qu'ils ont accordé un certain nombre de neurones. Mais là, on a un problème, c'est que il y a autant ce que vous venez de décrire que le fait que ces plafonnements de loyers ont découragé l'investissement locatif. Donc, on ne sait pas, en fait, qui a eu le plus d'impact que l'autre. La réalité, c'est que les deux se justifient. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que s'il n'y avait pas l'encadrement des loyers, ou le plafonnement des loyers plutôt, on aurait probablement beaucoup plus de studios à location, et il y aurait probablement moins d'appétit pour de la location courte durée, et on aurait beaucoup moins d'effets pervers sur le marché.
Oui, mais on aurait des loyers défiant tout... Enfin, aussi, au contraire.
Pourquoi pas? Et bien, justement, c'est l'offre et la demande. On peut se dire qu'avec plus d'offres, on aurait une demande qui serait un peu plus équilibrée.
Mais
c'est une vraie question.
Les taux d'intérêt auraient quand même augmenté et notre capacité au primo-accédant d'accéder à la propriété et donc de sortir du parc.
En fait, mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que le phénomène de pénurie locative, on l'avait déjà en 2019 avec des taux à 0,8. Et déjà à l'époque, on en parlait toute la journée et on était choqués de voir le nombre de candidatures.
Mais du coup, ce serait pire. C'est ça que je veux dire, Alexandre, c'est que ce serait pire.
Je pense que fondamentalement, le problème, ce n'est pas les taux, c'est la pénurie d'offres. Et donc, pour régler la pénurie d'offres, on a un problème en France, on ne sait pas construire. On ne peut plus construire, ce qui vient aussi qui est à l'origine du fait qu'on a des villes qui sont magnifiques.
Oui, mais vous avez des villes qui sont pas extensibles à merci, on va
exactement
pas se mentir.
Donc c'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs tout le travail du Grand Paris, par exemple. Pourquoi on a élargi le réseau de transport? C'est parce qu'il va falloir que Paris grandisse un petit peu si on veut accueillir toute l'effervescence. On le sait, il y a plein de tendances qui font que le nombre de logements alloués aujourd'hui est en pénurie. On a besoin de plus de logements. Donc,
je loue combien là à Paris en ce moment?
Pardon ?
Je loue combien en ce moment, du coup ?
Alors, si ta question est combien tu as le droit de louer, c'est très différent de combien tu loues.
Sur, bah, chez Beanstalk, là.
Ah oui, mais Beanstalk, nous, on est une agence, donc on va faire respecter l'encadrement des loyers à la lettre. Mais là, souvent, ce qu'on dit aux clients, c'est voilà le loyer légal, voilà le loyer de marché. Et là, on commence à avoir des écarts qui sont quasiment de 400-500 euros.
Ah ouais.
Je prends l'exemple typique, c'est le 11 mètres carrés.
Ouais.
D'ailleurs, plus une surface va être petite, plus vous pouvez la louer cher au mètre carré. Un 11 mètres carrés, en théorie, ça se loue hors charge, 450 euros maximum.
Alors, pardon, on n'a pas que des auditeurs parisiens. En fait, 11 mètres carrés, ça n'est pas un placard, ce sont des endroits dans lequel on a un minimum pour pouvoir vivre. Expliquez-nous quand même, parce que quand même, on est quand même en train de parler d'appartements de 11 mètres carrés.
Alors, il faut savoir que donc, la loi, c'est minimum 9 mètres carrés en France. Et à Paris, c'est encore plus rigoureux que ça, puisque à Paris, ils exigent minimum 9 mètres carrés dans au moins une des pièces. D'accord ? Donc, on a...
Sinon, c'est indécent.
Cette question.
Mais ça, c'est le produit phare des investisseurs à Paris. Hein.
Bah,
c'est,
malheureusement.
Le studio.
Y a aussi une question de budget.
Mais tous ceux qui investissent à Paris
la
et dans les
bonne.
Grandes villes, c'est la chambre de bonne ou le deux pièces. Hein.
Mais finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle que la chambre de bonne ait changé de rôle, ait changé de fonction, qu'elle soit plus juste un service au service des plus riches qui auraient cet accès à une chambre de bonne comme cave ou voilà. Aujourd'hui, c'est mis à disposition de locataires. Et si c'est bien fait, une chambre de bonne de 11 mètres carrés, ça peut être magnifique. Hein, je vous le dis. Et ils sont, et d'ailleurs, on l'a dit, hein, on a eu 800 candidatures pour un 11 mètres carrés à 610 euros. Donc, on a une très forte tension locative. Bah, ce 11 mètres carrés, qui se loue en théorie 450 euros maximum hors charge, plus les charges évidemment, s'il n'y avait pas l'encadrement des loyers, il se loue 850-900 euros. Sans problème. Donc, l'encadrement des loyers, il a des vertus, mais on pourrait se poser la question inverse. Est-ce que si on avait un marché dérégulé dans lequel l'offre et la demande travaillaient main dans la main, est-ce qu'on n'aurait pas plus d'offres ? Est-ce que finalement, aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas plus la pénurie que le prix ? Puisqu'on a des gens qui ne peuvent juste pas se loger. Et peut-être que même des gens qui auraient le budget pour se loger ne trouvent pas d'appartement. D'ailleurs, pour information, c'est même mon cas à titre personnel.
Là, il y a
pour vous dire, mais sans blague.
Il est venu à l'antenne pour chercher un logement.
Voilà, donc si vous avez trois pièces. Bon, non, mais voilà. Donc,
On pense à beaucoup de couples, puisqu'on raconte des histoires particulières. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se séparent en ce moment, qui vivent à Paris, et qui n'arrivent pas à se loger dans le cadre de séparation. Et c'est ce dé de divorce que Marie vous évoquait régulièrement, qui est une réalité économique.
Et c'est ce qui crée une demande supplémentaire, cette décohabitation. C'est ce qui crée une demande supplémentaire. Juste, on a fait Paris. Maintenant, toutes les autres grandes villes ont quasiment toutes un encadrement des loyers.
Ouais.
Juste au-delà de l'encadrement des loyers, en fait, dire est-ce que effectivement, compte tenu de la réglementation, vous voyez que ça bifurque. On parlait des JO, il y a d'autres villes hautes que Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que chez vous, chez Beanstalk, vous avez plein de gens qui vous disent moi je vais sortir mon petit étudiant pour aller le louer sur les plateformes de location saisonnière qui vont bien. Et rappelons à nos auditeurs téléspectateurs, est-ce qu'ils ont le droit de le faire ?
Alors, je vais tout de suite répondre à cette deuxième question. Pour les plus grandes villes, notamment Paris, c'est rigoureusement interdit. D'accord ? On n'a non seulement pas le droit de sortir son locataire pour cette raison, donc c'est illégal comme congé, mais en plus de ça, vous n'avez pas le droit de louer une résidence qui ne serait pas votre résidence principale. C'est simple. Et ça s'applique pour Paris et quasiment toutes les communes qui entourent Paris. Donc déjà, pour les JO, tous ceux qui l'ont fait, sachez que vous êtes dans l'illégalité. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres villes qui sont beaucoup plus libérées sur le sujet. Lille, c'est également interdit. Lyon a une réglementation très complexe. Marseille fait exception. Donc Marseille, c'est une ville qui va beaucoup souffrir, faut le dire. On va voir les loyers qui vont beaucoup, beaucoup augmenter. Déjà, ils ont quasiment augmenté de 10% sur les deux dernières années. Et je pense qu'on est au tout début d'un phénomène puisque ils n'ont pas encore réglementé Airbnb là-bas.
Ouais.
C'est encore très libéré, même si ça commence à se durcir. Il y a quand même une certaine liberté et le plafonnement des loyers n'y a pas été instauré. Donc nous, ce qu'on voit, c'est vraiment une distinction aujourd'hui entre deux types de villes. Les grandes villes dans lesquelles les prix au mètre carré baissent parce que les gens ne peuvent plus y acheter, mais qui restent de très loin les plus attractives, dans lesquelles la tension locative est maximale et dans lesquelles les locataires souffrent énormément. Et en face, on a un autre marché qui est les petites villes qui avaient eu le vent en poupe post-Covid et qui aujourd'hui commence à beaucoup souffrir d'un nouveau phénomène, c'est que la qualité des candidatures à la location a beaucoup baissé. Les gens finalement peuvent y acheter quand ils peuvent. Donc ceux qui peuvent acheter, je prends l'exemple de Perpignan qui est une ville dans laquelle on travaillait beaucoup à l'époque. Perpignan, c'est une ville où les prix à l'achat ont beaucoup augmenté, ils continuent d'augmenter puisque tous ceux qui peuvent acheter le font.
Ouais.
Puisque c'est une ville qui est assez rentable. Donc plus une ville est rentable, plus ça veut dire que le loyer est élevé par rapport au prix d'achat. Donc vous avez intérêt à y acheter. C'est plutôt l'inverse dans Paris où vous avez plutôt intérêt à rester locataire.
Ouais, bien sûr.
Et donc, les gens qui ne peuvent pas acheter, se retrouvent sur le marché de la location. Et nous, on a vu un phénomène très marrant dans plein de petites villes. Enfin, marrant, c'est non, pas du tout bien choisi comme mot. Voilà, notable, c'est que on a des villes dans lesquelles on a une augmentation du nombre de candidatures. Et pourtant, une augmentation également du temps de mise en location et une baisse des loyers.
Exemple de ville où vous avez observé ça ?
Perpignan, Nîmes, Le Havre, Rouen.
Parce que vous dites que ce sont des profils de locataires qui n'intéressent pas les propriétaires bailleurs, en fait.
Alors qu'ils ne les intéressent pas avec de bonnes raisons. Hein. Les propriétaires bailleurs deviennent moins exigeants aussi dans ces villes. Imaginez, quand on vous demande de baisser un loyer en 2024, vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai entendu Lorraine, elle m'a dit que, Marie, elle m'a dit que. Et en fait, non, il faut baisser le loyer dans certaines villes, malgré l'augmentation du nombre de candidatures. Donc le marché, il est compliqué en ce moment. Je pense que le gouvernement en est conscient, puisqu'il y a quand même beaucoup de discours sur le sujet. Mais quand on entend parler de remettre en question le régime fiscal de l'MNP, quand on entend parler du DPE, des plafonnements de loyers, etc., ça a une tendance à décourager et je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour le faire.
Voilà. Illustration, s'il vous en fallait plus, de la tension locative qui concerne l'ensemble de notre territoire. Merci beaucoup Alexandre Fitussi, président de Beanstock. Merci à votre équipe pour ces chiffres que vous avez partagés avec nous. Merci chère Marie. Vous retournez à votre courrier. On se retrouve demain à la même heure pour parler immobilier, évidemment, avec des sourires, mais surtout avec beaucoup de sérieux parce que ces sujets ils vous concernent en tant qu'investisseur ou en tant simplement que habitant, si je puis dire. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre plateforme et notre site web, notre application, pardon, d'ici quelques secondes. À suivre, on va s'occuper de gestion active ou bien de gestion passive. Qu'est-ce que vous préférez ? On en parle avec Christian Fontaine juste après la pub. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir en gestion passive ou peut-être en gestion active. Nous allons faire le point entre ces deux types de gestion avec vous, Christian Fontaine. Rebonjour, cher Christian.
Rebonjour.
Directeur délégué de la rédaction du Revenu avec nous tous les mardis en première partie d'émission, mais aussi à présent dans la deuxième partie où on répond à vos questions. On va faire un peu du basique, mais c'est important de revenir aux origines de certains concepts financiers, puisque on va parler de culture financière. On va s'opposer un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis. On va zoomer sur nos matières de faire ici en France. Alors rappelez-nous la différence ou les différences entre ce qu'on appelle la gestion active d'une part et la gestion passive de l'autre.
La gestion active part du principe que vous allez essayer de faire mieux que la moyenne du marché, c'est-à-dire en fait mieux que les indices qui reflètent donc alors l'évolution des valeurs sous-jacentes, souvent des grandes valeurs dans le cas du CAC 40 par exemple. La gestion passive, au contraire, vous partez du principe qu'il est très difficile de battre les marchés et donc vous allez mettre en œuvre une stratégie dont peu ou prou le seul objectif entre guillemets ça consiste à afficher à la fin de l'année une hausse ou une variation équivalente à celle des grands indices dont vous parlez sur votre antenne à longueur de journée. En sous-jacent, je dirais, de cette stratégie, en fait, qu'on souvent on oppose en réalité, mais c'est ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, elle se complète en fonction du type d'investisseur et en fonction du type de sous-jacent. En fait, il y a une étude annuelle qui fait référence en la matière, c'est l'étude SPIVA, Standard & Poor's Indices versus Active Funds. Et cette étude, elle montre quoi ? Elle montre que si environ 20 à 25% des fonds d'investissement gérés de façon active chaque année réussissent à battre les indices, chaque année, ce ne sont jamais les mêmes. Et donc, en fait, sur longue période, notamment sur le marché américain, vous avez 98% des fonds gérés de façon active qui affichent des performances inférieures aux indices. Donc ça, c'est un peu le principe de départ.
Justement, vous nous parlez des États-Unis. La gestion passive aux États-Unis, tout est dit, ça s'appelle le lazy investing, c'est-à-dire l'investissement paresseux.
Voilà, de façon un peu imagée, tout à fait.
Comment on applique ces concepts américains à notre pays, la France.
Alors, il y a trois idées très pratico-pratiques qui sous-tendent ce mode de gestion. La première idée, c'est qu'il faut investir régulièrement en bourse. Et il ne faut pas chercher à investir quand on pense que la bourse est basse ou à sortir du marché quand la bourse est haute. L'idée, c'est l'investissement, l'investissement en bourse. L'idée, c'est de un peu comme l'abonnement en bourse. Chaque mois, vous investissez la même somme. Quand les marchés sont hauts, vous achetez peu de titres. Quand les marchés sont bas, vous en achetez davantage, qui permet de moyenner le prix de revers. En fait, ça évite le principal biais comportemental qui consiste à acheter quand la bourse est au sommet. Et c'est un peu l'action est l'un des rares produits où plus c'est cher, plus vous avez envie d'acheter. Et c'est comme ça que lorsqu'on regarde l'évolution donc en fait de la collecte et des investissements des particuliers, ben souvent en fait ils suivent la hausse de la bourse et donc c'est pour ça que souvent ils sont perdants. Donc premier principe, on met en place un abonnement en bourse, on investit en bourse chaque mois la même somme, on n'essaye pas de faire ce qu'on appelle du trading. Ouais.
Deuxième, on ne s'improvise pas trader intraday.
Voilà, on ne s'improvise pas des traders, ce qui ne veut pas dire que les day traders ne gagnent pas de l'argent. Ce qui veut dire, c'est que c'est leur job, c'est réservé à des spécialistes, donc à des particuliers avertis. Deuxième principe de base, vous investissez en fait dans le monde entier. Vous ne vous posez pas la question, est-ce qu'il faut investir en Europe, en Asie, aux États-Unis ? Non, vous investissez dans des actions cotées à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe et à la fois en Asie, sur des indices le plus large possible, en partant du principe que c'est la meilleure stratégie pour profiter de la tendance haussière de la bourse sur le long terme. Et vous investissez via des produits que vous aimez beaucoup et que nous aussi au Revenu on aime beaucoup, les ETF. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, il y a un ETF, on en reparlera tout à l'heure, qui fait le buzz, donc là, qui est indexé sur l'indice MSCI Worldwide, donc 23 pays, 1500 valeurs de pays développés. Troisième principe de ce qu'on appelle aux États-Unis le lazy investing, on investit, on fait attention aux impôts, donc en Europe, en France, on investit dans des enveloppes à fiscalité privilégiée, PEA, PEE, donc assurance vie. Et dernier point, je sais que là-dessus vous partagez mon opinion et vous allez me chercher et me taquiner là-dessus, c'est bien sûr on optimise les frais. Pourquoi on optimise les frais ? Parce que sur le long terme, c'est l'un des éléments clés de la performance. Les frais moyens donc lors des fonds d'investissement en actions, ça tourne autour de 2%. Vous placez 100 000 euros pendant 25 ans à 6%, vous aurez 400 000 euros. Si vous les placez à 8% parce que vous payez 2% moins de frais, eh bien vous n'aurez plus 400 000 euros, mais 600 000 euros. Dit autrement, 2% de frais sur 25 ans, avec ce type de taux de rendement, c'est 200 000 euros. Donc vous voyez que ça pique.
Absolument, mais je suis votre disciple en la matière de frais, Christian. Vous savez que je vous cite quasiment au quotidien. Non, mais c'est très sérieux. Vous m'avez éclairé et vous m'avez changé finalement. On continue à parler très sérieusement de cette gestion passive versus la gestion active. Bon, vous allez nous dire que ça n'est quand même pas la méthode miracle, cette gestion passive, que quand même elle a quelques failles.
Alors, elle a quelques failles, oui, parce qu'en théorie financière, la théorie financière dit quoi ? Que quand vous avez une somme à investir en bourse, il ne faut pas procrastiner, il faut l'investir tout de suite. Et c'est vrai que c'est la meilleure stratégie pour optimiser vos gains. La seule chose, c'est que votre objectif n'est peut-être pas forcément de gagner le plus, mais aussi de dormir tranquille. Si vous aviez investi au sommet de la bulle Internet en 2000-2001, vous avez mis plus de 10 ans avant de récupérer votre mise. À condition, et vous avez récupéré votre mise, à condition que vous n'ayez pas vendu entre-temps. Donc, je dirais que le lazy investing n'est peut-être pas la technique qui permet de gagner le plus, mais c'est la technique qui permet de gagner le plus tout en dormant tranquille. Donc ça, c'est quand même un point essentiel. Surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que gestion active et gestion passive ne s'opposent pas, en fait. Vous pouvez très, très bien décider, par exemple, pour les small caps, les petites valeurs européennes, de confier votre argent à un professionnel parce que les professionnels qui sont sur cette thématique des small caps souvent battent leur indice de référence. Il y a peu d'informations sur les small caps, les indices sont pas forcément représentatifs. Pour un gérant donc qui passe ses journées, il va souvent réussir à afficher de meilleures performances que les indices. Pour les grandes caps européennes, vous pouvez très bien partir du principe qu'en écoutant votre antenne, en lisant donc la presse spécialisée, vous pouvez battre donc les indices et donc là aussi adopter plutôt une gestion active. Par contre, pour tout ce qui est l'international, l'exposition de votre portefeuille, notamment aux actions américaines, là, la gestion passive prend tout son sens. Le marché américain est un marché très particulier. C'est un marché où l'information circule bien. Ça signifie quoi ? Ça signifie aussi que lorsque vous êtes analyste ou gérant, donc alors à New York, donc alors, ou à Orlando, donc ou à San Francisco, et bien, peu ou prou, vous avez le même niveau d'information. C'est très difficile d'avoir plus d'informations sur Coca-Cola ou sur Nvidia que votre concurrent, le gestionnaire concurrent qui travaille dans une banque concurrente de la vôtre. Du coup, c'est très difficile de battre les indices. C'est pour ça que la gestion passive sur les marchés américains est particulièrement bien adaptée.
Cette disponibilité de l'information, un point à souligner. Bon, on parlait de trackers, on parlait d'ETF qui sont par définition le symbole, je dirais, de la gestion passive. Est-ce que vous pouvez nous aider à bien choisir nos ETF? Si on respecte ce que vous nous avez dit, on met un petit peu tous les mois, on essaye d'avoir une vision aussi, un investissement aussi globalisé que possible, pardon pour l'anglicisme, et bien sûr avec les ETF, on est à peu près sûr qu'on ne paye pas trop de frais, mais comment on choisit ces ETF parmi l'offre pléthorique d'ETF?
Alors c'est vrai, bon d'abord il faut simplifier la vie, donc on choisit un ETF coté à Paris, c'est beaucoup plus simple, et puis c'est vrai que un ETF s'achète comme une action et donc s'il est coté sur Euronext Paris, vous paierez moins de frais de courtage que s'il est coté à New York. Ensuite, on choisit un ETF qui est plutôt proposé par une grosse société de gestion, Amundi, BNP, donc alors BlackRock via leur gamme iShares. On choisit plutôt un ETF qui capitalise plus de 50 millions d'euros, sauf en phase de lancement. Alors pourquoi ? Parce que ça veut dire que les ETF sont des produits peu ou prou comme les autres. Si un ETF pèse plus de 50 millions d'euros peu ou prou, ça veut dire qu'il marche, ça veut dire qu'il rencontre donc ses investisseurs, ça veut dire qu'il ne risque pas de disparaître. Vous savez, les ETF, il y en a qui disparaissent et qui apparaissent tous les jours. Bon. Donc il faut mieux se positionner sur un ETF qui marche, en tout cas si vous êtes dans une perspective d'investissement de long terme. Un ETF éligible au PEA, un ETF qui prélève très peu de frais, certains ETF qui répliquent par exemple les grands indices américains, le MSCI World par exemple le Standard & Poor's 500, peuvent prélever 0,03, 0,04, 0,07% de frais, donc moins de 0,1% de frais. Voilà, c'est à peu près les indices. Après ça, on peut regarder dans les détails. C'est vrai que il faut regarder dans le temps la capacité de l'ETF à reproduire la performance de l'indice sous-jacent, par exemple. Et puis, selon votre profil d'investisseur, vous pouvez choisir un ETF qui va distribuer des revenus, parce que vous avez besoin de revenus complémentaires, ou qui va les capitaliser, c'est-à-dire les réinvestir, donc alors pour profiter, donc alors à fond de l'effet boule de neige et de la capitalisation des intérêts, donc alors la 7e ou la 8e merveille du monde, selon Albert Einstein. Voilà. Donc c'est quelques-uns des critères de sélection d'un bon ETF.
On parlait de culture américaine opposée à culture française. BlackRock, gérant, énorme gestionnaire d'argent, a lancé un produit pour le marché français, dont on a parlé sur cette antenne déjà, mais c'est intéressant d'avoir votre regard, Christian. Un ETF éligible au PEA qui couvre, voilà, qui est globalisé. Votre regard sur ce produit, qu'est-ce que ça dit à la fois du marché français, de l'intérêt du PEA et puis peut-être quelque part de la stratégie de BlackRock?
Alors, c'est très intéressant de voir que c'est un géant mondial, le numéro un mondial de mémoire de la gestion d'actifs, un Américain qui décide de lancer un produit destiné, coté à Paris, destiné exclusivement à la clientèle de particuliers français. Donc déjà ça c'est un fait extraordinaire, ça n'arrive pas tous les jours. Ce qui montre quoi ? Ce qui montre que BlackRock croit au potentiel donc de la France, croit au potentiel du marché retail, donc des particuliers de la France, et croit à l'enveloppe fiscale du PEA. Ce qui montre aussi, c'est qu'il croit au sous-jacent. Donc, c'est ce fameux indice MSCI Worldwide, donc qui est un indice boursier qui reflète la performance des grandes bourses occidentales, hors pays émergents. Et c'est vrai que cet indice a affiché au cours des 10 dernières années des performances exceptionnelles, puisque le gain moyen annuel est largement supérieur à 10%. Bon. Donc, c'est l'indice, c'est le tracker, c'est l'ETF, donc alors qui fait le plus le buzz sur les réseaux sociaux et a raison. Alors, l'intérêt de ce produit, Il existait déjà des produits concurrents, notamment chez Amundi. L'intérêt de ce produit, d'abord, c'est qu'il a une valeur liquidative, une valeur de la part très faible, 5 euros. Donc, je dirais que vous pouvez y investir des sommes très, très modestes. Vous pouvez l'utiliser pour diversifier votre PEA facilement, l'internationaliser. Et puis, le jour où vous voudrez alléger votre ligne, ça sera très facile. Et puis, au niveau des frais, c'est vrai qu'il ne prélève que 0,25% de frais de gestion chaque année, contre 0,38% pour le produit concurrent, donc ce qui fait quand même si mes calculs sont bons, 35% de frais, donc il est 35% moins cher que le produit concurrent, donc ça c'est top. Alors attention, c'est quand même un produit, c'est un indice en dollars, donc ça vous expose quand même à un risque dollar. On parle d'actions bien sûr, donc il n'y a aucune garantie sur le capital, les marchés sont plutôt hauts en ce moment, donc c'est pas un produit miracle. Oui, c'est un bon produit de diversification, mais là aussi on y rentre progressivement.
Voilà, un petit peu de perspective sur la gestion passive à opposer ou à compléter avec la gestion active. Ce sera peut-être ça le mot de la fin avec vous, Christian. Merci beaucoup, Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu. Le Revenu qu'on trouve en kiosque ce mois-ci, comme tous les mois, digital aussi d'ailleurs, pour réussir ses placements immobiliers. C'est ça, la promesse mensuelle.
Oui, c'est ça. C'est notre... on remet donc lors des prix aux meilleurs SCPI, SCI, OPCI, donc ces placements qui permettent à la fois... je dirais, de cumuler les avantages des placements financiers, la liquidité et puis donc le rendement de le côté, la sécurité de l'immobilier, avec bien sûr d'autres articles sur l'épargne salariale, sur investir dans une voiture de collection, sur débuter en bourse en limitant les risques, et puis aussi un petit zoom sur jusqu'à 60 000 euros d'impôts en moins en finançant une PME. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année d'ailleurs, il y a de nouveaux dispositifs pour investir dans le non-coté, investir en direct dans l'appareil productif tout en profitant de carottes fiscales particulièrement importantes. D'autres articles aussi, notamment pour savoir si vous faites des donations à vos enfants et vos petits-enfants, et si vous les passez devant le notaire, combien ça vous coûte exactement. On en a peu parlé, mais depuis le fin février, en fait, les tarifs des notaires ont été prorogés pour 2 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ils n'augmentent pas et on fait le point sur les tarifs des notaires, notamment en matière de donations.
Voilà, Christian Fontaine et l'équipe du Revenu qu'on retrouve tous les mardis dans Tout pour Investir, et puis à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en podcast et en replay sur notre site et l'application de BFM Business. Cette séquence est déjà à retrouver. Vous restez avec nous, on va finir l'émission en parlant d'investissement dans le design. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement, peut-être dans le design. Au-delà de l'investissement, on va parler de collection. Bonjour Flavien Gaillard.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département design chez Christie's. Avec nous, pour un exercice de définition, qu'est-ce que c'est que le design ?
Le design, c'est une question qui est compliquée. Avant tout, je pense que c'est la recherche de formes nouvelles adaptées à une fonction. Derrière chaque objet design se cachent des mouvements, des périodes. Ça peut être l'art déco, les années 70, la reconstruction, les recherches de nouveaux matériaux et aussi des artistes et des créateurs passionnés qui se sont investis sur des matériaux et des nouvelles idées révolutionnaires.
Le design est la fonction, l'usage, c'est-à-dire que ça doit être beau et pratique. Est-ce que c'est ça la révolution ?
Je dirais que c'est surtout la grande machine industrielle après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire qui a accéléré tout ça et où on a créé des produits et des pièces en plus grande quantité avec des processus révolutionnaires, l'arrivée de nouveaux matériaux comme le plastique qui a permis de développer, on va dire, toute la reconstruction et la période des Trente Glorieuses assez abondamment.
Comment vous êtes tombé dedans ?
Écoutez, je pense que la quête de l'objet est assez importante. On aime chasser des œuvres. Et c'est ce qu'on fait chez Christie's pour essayer de trouver les œuvres qui alimentent nos ventes. Et ensuite, je pense que derrière chaque objet, il y a une histoire, ce qui n'est pas forcément facile à imaginer, et peut-être moins facile qu'un tableau. Et pourtant, on peut découvrir toute une histoire derrière chaque objet.
Est-ce que vous pouvez nous citer quelques objets emblématiques ? Certains de nos auditeurs sont nos auditeurs, donc ils nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelques objets emblématiques ?
Écoutez, je pense que tout le monde connaît la chaise longue de Le Corbusier, qui est vraiment une icône du design. Vous avez aussi en design américain le fauteuil lounge de Charles Ray Eames, qui a été édité sur quasiment 70 à 80 ans aujourd'hui. On a aussi les miroirs de Lynn Vautrin en talocelle, qui sont très très présents aujourd'hui dans de nombreuses collections. Ça fait partie des nouvelles icônes du design que l'on s'arrache un peu partout aux enchères ou dans les galeries.
Flavien, c'est votre première fois dans cette émission Tout pour investir. On est une émission d'investissement. Je vais donc vous poser des questions très matérielles. Est-ce que commencer à collectionner le design, c'est peut-être des collections abordable. À partir de quel budget on peut commencer à posséder, ou en tout cas à envisager de posséder un objet design?
Alors le design, ça englobe aussi les céramiques, la verrerie, les luminaires. À partir de 50 euros, vous pouvez déjà trouver un objet design qui correspond à une époque, aux couleurs, aux formes qui sont emblématiques d'un courant artistique. Et ensuite, vous pouvez vous envoler jusqu'à plusieurs millions d'euros. Tout va dépendre un petit peu de votre budget, de votre approche aussi, et de vos envies de vous meubler.
Est-ce que vous pouvez me citer quelques artistes contemporains qui ont la cote? Mais vraiment la cote.
Aujourd'hui, vous avez Claude et François-Xavier Lalanne qui sont les artistes les plus recherchés. On a battu un record du monde à 18 millions d'euros avec le Rhino Créter en octobre dernier.
Ceux qui nous suivent en images le voient défiler derrière.
Voilà, un objet assez exceptionnel avec une histoire derrière fantastique, puisque c'était une pièce unique qui c'était la première fois depuis son exposition en 1966 que l'œuvre ressortait sur le marché. En termes de prix, Jean Prouvé et Charlotte Perriand sont les deux icônes des années 50, sur lesquelles on a des prix vraiment exceptionnels. La Bibliothèque Mexique, qui meublait les chambres d'étudiants à l'université d'Antony, c'est une pièce qui se vend plus de 300 000 euros aujourd'hui, qui est vraiment iconique de cette femme artiste et qui est recherchée à l'international aujourd'hui.
On entend quelques noms féminins dans ce que vous nous décrivez, Flavien. Est-ce que les femmes ont une place importante dans le design comparée à d'autres catégories de l'art ?
Écoutez, je pense que les Charlotte Perriand, pour l'avoir citée, c'est la première femme designeuse à avoir eu une rétrospective à la Fondation Vuitton. Et elle n'a pas été présentée comme une designeuse, mais plutôt comme une artiste de son temps, avec des recherches écologiques, un travail sur la photographie et le design, qui lui permettent d'avoir une aura qui a traversé les âges, puisqu'elle a commencé à la fin des années 30. Et jusqu'à aujourd'hui, la maison Cassina continue à rééditer les modèles iconiques de cette femme, qui inspire toujours autant d'étudiants en architecture, en design, et de collectionneurs voulant posséder une part de cette histoire.
Il faut dire qu'elle avait beaucoup de cartes de visite, architecte, designer, photographe, elle a été aussi commissaire d'exposition. Donc en fait, toute son histoire raconte aussi l'histoire du design du 20e.
Exactement. Après, elle a beaucoup voyagé. Elle a ramené du Japon, du Brésil, les coutumes et en fait le côté traditionnel du travail du bois et de différents matériaux qu'elle a réussi à inclure. Elle a créé des systèmes vraiment révolutionnaires comme sa bibliothèque à plots, qui est vraiment un modèle de design et d'économie. Je pense que c'est vraiment une figure extrêmement importante aujourd'hui et qui est mise en rapport avec des grands tableaux d'art contemporain et d'art moderne.
Voilà ce qu'on pouvait dire du design en quelques minutes avec vous, Flavien Gaillard. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous. On vous a expliqué peut-être pourquoi s'intéresser de plus près au design et comment on pouvait collectionner. On l'entend, la France est un bon endroit pour s'intéresser à cet art. Peut-être un chiffre ou un événement à venir dans cet écosystème que vous voulez partager avec nous, Flavien, pour finir.
Alors écoutez, on a notre vente de design le 23 mai. À Paris, où on va célébrer Charlotte Perriand, puisque c'est le 25e anniversaire de sa disparition, où on va présenter des pièces iconiques et une commande qu'elle a faite pour la maison Borot, un aménagement fait à Montmartre avec beaucoup de pièces uniques. On exposera aussi son travail photographique afin de mettre en relation son côté pluridisciplinaire et faire découvrir encore au public ses plus grandes réalisations.
Merci beaucoup Flavien Gaillard et l'équipe de Christie's. Cette séquence Finance, comme l'ensemble de notre émission, est à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes sur le site et l'application BFM Business. C'est la fin de Tout pour Investir. Merci à toutes et à tous pour vos messages. Vous continuez à nous écrire. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler déclaration de revenus. Et oui, nous serons en équipe avec notre consoeur des Échos, Marie-Christine Sonquin, pour vous éclairer sur tout ce qu'il faut savoir, les pièges à éviter. Et puis, on investira dans le sport aussi avec l'équipe de Montpensier. Investir dans le sport dans cette année olympique, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue très concret ? Réponse demain dans Tout pour Investir. Avant demain, eh bien, il y a le reste de l'après-midi et le reste de la journée sur BFM Business. Sandra Gandoin, aux manettes d'Avec vous, est arrivée parmi nous.
Bonjour Lorraine.
Quel est le programme de l'émission ?
Se faire aider quand on lance sa start-up ou quand elle ferme et pour rebondir derrière. On va parler de cela. J'aime mon job, mais je ne suis pas assez payée. Donner une prime aux salariés non grévistes, est-ce que c'est légal ? Et puis notre question du jour, est-ce que vous aussi, comme votre collègue d'Open Space, vous aimez travailler en musique ou pas ? Notre question du jour, vous réagissez, notre adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Ça et toutes les questions que vous avez à nous poser sur la vie en entreprise, la vie des patrons, des salariés, des indépendants, c'est dans un instant.
Nous sommes collègues d'Open Space, cher Amaury, vous nous avez rejoint, bonjour.
Bonjour Lorraine, bonjour.
Nous travaillons dans le CAM, pour votre information, avec Amaury, parce que vous avez beaucoup de choses à préparer. Vous êtes aux manettes de BFM Crypto dès 15h et puis aussi à 21h30 sur notre antenne. Quel est le programme de l'émission qui s'occupe de nous faire vivre le Web3 et les cryptos ?
Eh bien, peut-être que justement, grâce au Web3 et à la blockchain, on va bientôt pouvoir s'envoyer de l'argent via des messageries instantanées, notamment, en tout cas, celle de Telegram, qui a quand même 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Et bientôt, on pourra s'envoyer le premier stablecoin au monde, donc l'USDT, via Telegram. Donc, en plus de l'information, on pourra s'échanger de la valeur bientôt.
Voilà, c'est le projet de Telegram avec les stablecoins, un stablecoin. Merci beaucoup, Amaury. On vous retrouve tout à l'heure à 15h, 21h30 et puis n'importe quelle heure en podcast pour couvrir cette actualité Bitcoin. Le Bitcoin qui se traite autour de 66 000 dollars à l'heure où nous nous parlons. Très bonne écoute sur BFM Business et à demain.
Tout pour investir sur BFM Business.